page de couverture. Saint-Cyr Mag, numéro 2, juin 2021, page 22 à 25, grand angle, police municipale, action et proximité. Page 2, au sommaire de ce nouveau numéro, cadre de vie. Page 4 et 5, centrale, parc vue du ciel. Page 6 et 7, coteau, l'aménagement se poursuit. Page 8 et 9, la nature invitée en ville. Page 10, mes plantes, mes trottoirs. Page 11, dispositif Recigo, la ville engagée. Page 12 et 13, actualité métropolitaine. Page 14 et 15, Saint-Cyr en plein boom commercial. Page 16-17, quand une galerie commerciale s'anime. Page 18, bientôt un cœur de ville numéro 2 sur 1,5 hectare. Page 19, ancienne mairie, l'heure de la réouverture. Page 20, circulation douce, le maillage continue. Page 21, les travaux en ville. Grand angle, page 22 à 25, police municipale, action et proximité. Proximité, page 26, un service minimum assuré. Page 27, pour un socle numérique dans les écoles. Page 28, deux talents made in Saint-Cyr. Page 29 à 31, un budget 2021 ambitieux et maîtrisé. Page 32 à 34, l'escale, centre de vaccination. Page 35, plan canicule, faites-vous connaître. Page 36, portage, la bibliothèque vient à vous. Page 37, incivilité en ville, adoptez les bons comportements. Page 38 à 40, vos rendez-vous culturels. Focus. Page 41, une pâtissière hors pair. Page 42-43, nouveaux acteurs économiques. Page 44, du changement au conseil municipal. Page 45, regard d'élu. Page 46-47, en images. Page 3, édito. Philippe Briand, maire vice-président de Tours Métropole Val-de-Loire. Malgré la crise liée à la Covid-19, le programme d'équipement pour la ville s'est poursuivi afin d'être prêt à l'heure de la relance et du déconfinement. Le budget a été voté le 12 mars dernier. Quels en sont les marqueurs forts? Avec plus de 14 millions d'euros d'investissement tout budget confondu, notre équipe municipale a voulu montrer que la crise liée à la Covid-19 ne devait pas être un frein à la poursuite du programme d'équipement pour la ville. Certes, quelques retards ont pu être pris, ça et là, mais nous avons continué à travailler durant tous ces mois afin d'être prêts à l'heure de la relance. Ce budget traduit l'orientation politique globale initiée depuis des années. Maîtriser nos charges de fonctionnement afin de dégager un maximum d'autofinancement pour un programme d'investissement ambitieux, maîtriser le recours à l'emprunt tout en garantissant aux Saint-Cyriennes et Saint-Cyriens une stabilité de la fiscalité et une qualité de service public. Les taux n'ont pas augmenté depuis 2009. La police municipale a augmenté ses effectifs en 2021 et continuera de le faire en 2022. Que cela traduit-il ? Assurer la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens est une priorité de l'équipe. Si notre ville est réputée pour son calme, nous ne sommes hélas pas à l'abri d'incivilités qui polluent le quotidien. C'est pourquoi je suis partisan d'une police municipale bien présente sur le terrain. En augmentant ses effectifs régulièrement, un sixième policier rejoindra l'équipe en 2022. Nous allons permettre un vrai travail en horaire décalé et donc une plus large amplitude de présence au service des habitants. Nous continuons d'équiper nos policiers afin qu'ils soient protégés dans l'exercice de leur mission. Dotation en caméra piéton et arrivée de 2 scooters en mai dernier. L'escale s'est métamorphosée au centre de vaccination depuis le 6 avril. Comment cela s'est-il mis en place? Dès que le gouvernement a annoncé le lancement du plan national de vaccination, il me semblait évident que Saint-Cyr-sur-Loire se positionne pour accueillir un centre de vaccination. L'escale est apparue comme un lieu privilégié par sa localisation, sa capacité d'accueil et ses larges espaces de parking, critères souhaités par la préfecture d'Indre-et-Loire. Ouvert dès le 6 avril grâce à l'action conjuguée des pompiers, des professionnels de santé réunis dans la CPTS, autour, des services municipaux et avec l'aide du département, de la préfecture, de la métropole et de ses communes membres, le centre est progressivement monté en puissance et permet depuis la mi-juin l'injection de 7000 doses par semaine. Je remercie ici celles et ceux qui assurent son fonctionnement au quotidien et qui témoignent de leur engagement au service de la population. Le 30 juin sonne la fin du confinement. Comment entrevoyez-vous le deuxième semestre 2021 ? À l'heure où j'écris ces quelques lignes, le déconfinement a été engagé et nous entrevoyons avec bonheur le retour tant espéré à une vie normale. Malgré tout, il nous faut rester vigilants car le virus a montré qu'il savait revenir en force. Bien sûr, la vaccination nous protège des formes graves, mais pour éradiquer cette pandémie mondiale, il nous faut continuer à être responsables et suivre les gestes barrières. En retrouvant progressivement des espaces de liberté, nous pourrons reprendre en septembre une vie sociale, associative, culturelle ou sportive. D'ici là, je vous souhaite avec toute l'équipe municipale de profiter au maximum des joies de l'été et des vacances. Pages 4 et 5. Cadre de vie, urbanisme, Central Park, vue du ciel. Les travaux progressent à Central Park. Cette photo réalisée par Visadrone permet de visualiser l'avancée de ce chantier emblématique de la ville. Poumon vert du site, le parc Jean-Yves Couteau et ses allées sillonnent à droite et à l'opposé en premier plan, on distingue les prémices des fondations d'un des quatre immeubles commercialisés par Kaufmann & Broad. En second plan, le chantier de l'EPAC Corian. Maison de quartier, la petite enfance en visite. Au cœur de Central Park, la maison de quartier Denise Duplex prévoit, en rez-de-chaussée, l'accueil du pôle petite enfance La Souris Verte. Ses agents, qui sont en première loge pour le suivi du chantier, attendaient avec impatience d'en découvrir les nouveaux espaces. Une visite très attendue par Françoise Fillon, responsable de la petite enfance, et son équipe, qui, sauf hélas de chantier, devrait déménager dans leurs nouveaux locaux d'une surface de 450 m² d'ici à la fin décembre 2021. Le projet d'établissement de la structure pour la partie projet éducatif va être revu pour tenir compte de son extension. Le multi-accueil, La Souris Verte, augmente sa capacité d'accueil du jeune enfant d'un tiers en passant de 20 places à 28 places. Le point d'orgue de la visite fut sûrement la présentation de l'arbre magique. Imaginé par le cabinet Roland et Associés, ce décor lumineux central invite à la rêverie et se pose en élément central de ce lieu de vie pour tout petit. Pages 6 et 7, cadre de vie, urbanisme, coteau de la mairie. L'aménagement se poursuit. Les mois d'avril et mai auront été marqués par les démolitions d'anciens équipements scolaires dans le cadre de l'aménagement de ce secteur du coteau, dit de la mairie, situé entre la rue du Docteur Tonnelet au nord et les quais de Loire au sud. Après la démolition de deux maisons situées aux 6 et 8 rue de la mairie, permettant la création d'un cheminement piéton sécurisé et l'élargissement du virage, ce sont deux anciens établissements scolaires, aujourd'hui regroupés avenue de la République, qui ont fait l'objet de travaux de démolition. Démolition et aménagement de la rue Tonnelet. L'ancienne école Anatole France a été ainsi libérée de ses préfabriqués et de deux classes adossées au mur ouest. La partie historique a été préservée pour permettre à terme l'accueil d'un équipement public. Si le changement reste discret sur ce site, il est en revanche spectaculaire rue Tonnelet, où se trouvaient les locaux de l'ancienne école Honoré de Balzac. Seuls ceux situés en bordure de rue ont été préservés, mais devraient tomber au cours de la première quinzaine de juillet, offrant ainsi une perspective nouvelle sur ce secteur. La rue Tonnelet profitera ainsi d'un réaménagement dans la continuité de l'existant et le rétrécissement de voies sera supprimé. Le parking des droits de l'enfant sera requalifié, tout comme la placette devant l'ancienne mairie. Création de terrasses et d'un parking paysager. D'ici à la fin de l'année 2021, la cour de l'ancienne école Anatole France sera transformée en parking arboré, favorisant le stationnement aux abords de l'église Saint-Cyr, Sainte-Julite. Un jardin y sera également intégré, puis ce sera la place de l'église elle-même, place de la Liberté, qui sera entièrement repensée et végétalisée. Cet aménagement paysager intègre une structuration en terrasses successives menant vers la Loire et assurant une continuité avec le parc de la Pérodière, création d'escaliers, accès aux personnes à mobilité réduite, réaménagement de la petite Pérodière. Comme pour la plupart des chantiers d'envergure, les bâtiments et les éléments paysagers seront valorisés par leur mise en lumière. L'ensemble des travaux est mené en lien avec l'architecte des bâtiments de France. Le calendrier 2021. Ancienne école Anatole France, démolition, sauf bâtiment historique, création du parking et des espaces verts. Ancienne école Honoré de Balzac, démolition. 2021-2022. Rue Tonnelet, aménagement. Placette à l'avant et à l'arrière de l'ancienne mairie, requalification. Esplanade des droits de l'enfant, requalification du parking. 2022, petite Pérodière, réaménagement pour un accès direct au parking. Église, requalification de la place de la Liberté, du parvis et mise en lumière. Pages 8 et 9. Cadre de vie, Environnement, la nature invitée en ville. La commune contribue à la préservation de l'environnement par la mise en place d'actions concrètes en matière de gestion des espaces verts. Explication. Depuis plusieurs années, le service des parcs et jardins travaille à la mise en place d'un plan de gestion différencié de ces espaces verts. L'objectif est multiple, environnemental, par la restauration et la préservation de la biodiversité, économique, en rationalisant la gestion des espaces verts et l'affectation des ressources. Et enfin, sociétal, par l'amélioration de la qualité de vie des habitants et la diversification des qualités paysagères. Concrètement, cela consiste à définir le niveau et le type d'entretien pour chaque site en prenant en compte ses spécificités. Ainsi, tous les espaces verts de la ville ont été recensés par typologie et classés en trois catégories. Zone de prestige, le cœur de ville et les parcs remarquables, la Pérodière, la Tour. Zone d'entretien courant, les quartiers résidentiels, les axes principaux et bords de Loire, les parcs secondaires, les entrées de ville, les ronds-points, les massifs floraux, les cimetières et les écoles. Zone d'entretien extensif, les talus et accotements routiers, les merlons, les arbres d'alignement sur le trottoir, les espaces boisés et bosquets, l'espace naturel du Riablé, les bassins de rétention ainsi que la promenade des Gabarres. 31 agents au service des parcs et jardins, 171 hectares d'espaces verts ouverts au public, zéro produit phytosanitaire. Une gestion des espaces enherbés adaptés. Le territoire de la commune est marqué par de grands espaces enherbés. Différents modes de gestion y sont appliqués. La tonte différenciée. La fréquence de tonte d'un secteur dépend de l'utilisation du lieu par les citoyens, de l'esthétique souhaitée et de l'environnement. Ainsi, les espaces verts du cœur de ville sont tondus une fois par semaine, alors que ceux en bord de Loire le sont une fois par mois. L'éco-pâturage. Au détour d'une promenade, vous rencontrerez peut-être des moutons au bassin de Tartifume, au bois du Riablé et à la ferme de la Rablée. Cette alternative à la tondeuse permet d'entretenir de manière écologique et économique des espaces très vastes ou difficiles d'accès pour les engins mécaniques. Une convention a été signée avec le lycée agricole de Fondettes pour la gestion du cheptel dont il est propriétaire. Le fauchage tardif. Certaines zones bien définies sont laissées non tondues au milieu d'une plus grande étendue. Ainsi, l'herbe est fauchée une fois par an seulement pour permettre aux plantes de se ressemer et à la faune de nidifier. Cela concerne aujourd'hui 5 400 m² de pelouse sur la commune. Les sites sont identifiés par un panneau d'information comme au parc de la Clarté ou encore rue de Coubertin. Les jachères fleuries. À certains endroits, des fleurs sont semées pour attirer et nourrir les abeilles, papillons et oiseaux. C'est le cas sur la voie romaine. Des pratiques en constante évolution. Le mode de gestion des espaces verts est en constante évolution, les pratiques s'adaptent et la réflexion progresse pour agir dans le respect de la biodiversité. De même que pour la tonte, les fréquences de taille des haies sont adaptées en fonction des contraintes du site, des végétaux en place et du rendu souhaité. Les déchets issus de ces tailles ou encore d'abattage sont passés dans un broyeur avant de produire des copeaux de bois qui sont ensuite utilisés en mulch ou paillage sur les massifs ou au pied des arbres. Les déchets liés au ramassage des feuilles sont également revalorisés. Ils permettent la création de compost, réutilisé en amendement dans les massifs floraux ou en complément dans les fosses de plantation. Des alternatives aux produits phytosanitaires ont été trouvées pour lutter contre certains parasites. Ainsi, dans les serres municipales, les équipes des parcs et jardins utilisent la PBI, protection biologique intégrée. Cette méthode consiste à utiliser des auxiliaires tels que les coccinelles ou les cryptotalémus pour combattre les ravageurs de la production florale. Enfin, le traitement des pins et chênes contre les chenilles processionnaires est réalisé avec des produits insecticides biologiques à base de bactéries. Parole d'élu. Christian Vrin, maire adjoint en charge de l'environnement, de l'embellissement de la ville et des moyens techniques. Je constate avec plaisir que la nature reprend ses droits en ville. La gestion différenciée favorise des pratiques douces et développe des habitats favorables à la faune et à la flore sauvage. Avec Aurélie Bertin, responsable des parcs et jardins, nous avons à cœur de sensibiliser le public à la conservation et au développement de la biodiversité. Pages 10 et 11. Cadre de vie, environnement, mes plantes, mon trottoir. Un début prometteur. Lancée au printemps, l'opération participative Mes plantes, mon trottoir a déjà séduit de nombreux Saint-Cyriens. Les premiers semis sont en cours. Cette initiative permet d'associer les habitants à la préservation de la biodiversité et s'inscrit dans le plan de gestion différencié. Le bénéfice est double puisque l'opération contribue également à l'embellissement de la ville. Pour participer, la première étape est d'appeler le centre technique municipal au 02 47 88 46 20. Il vous sera proposé un rendez-vous avec le service des parcs et jardins qui vérifiera sur place la faisabilité de l'opération, prise en compte du passage des réseaux en sous-sol, de la largeur du trottoir, etc. Si vous remplissez les conditions, votre inscription sera alors validée. Deux formules possibles. En fonction de la localisation et des contraintes liées à la voirie, deux formules sont proposées. L'opération dite simple ne nécessite pas de travaux préalables. Les graines sont alors à semer le long de la limite de la propriété et ou au niveau de possibles anfractuosités dans l'enrobé où poussent déjà des adventices. Et celle dite complète, les semis peuvent nécessiter un décaissement. Le service infrastructure creusera alors une fosse de 20 cm de large sur un linéaire à définir en fonction des lieux. Découpe du revêtement minéral du trottoir existant, décaissement de 20 à 30 cm du substrat en place, remplacement par un substrat terreux adapté. Les graines seront à semer dans la fosse spécialement créée. Dans les deux cas, le service des parcs et jardins vous remettra un sachet de graines de plantes à fleurs à semer. Une affichette explicative de l'opération et des semis réalisés sera apposée. Un permis d'embellir vous sera remis. Il s'agit d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public qui vous engage. Vous devrez assurer la plantation et l'entretien d'un espace de végétalisation sur l'espace public. Un choix de graines réfléchi. Le choix des graines qui composent le sachet a été décidé par la ville en fonction de l'adaptabilité des variétés au terrain et de leur développement futur. Aucune autre variété ne sera autorisée. Les graines sont celles de fleurs qui sont adaptées au pied de mur. La liste complète est disponible sur le site de la ville. 34 demandes reçues, 20 participants retenus, 16 opérations complètes. La ville engagée pour le recyclage du papier. La préservation de l'environnement et le développement durable sont au cœur des préoccupations de la municipalité. Parce que chaque geste du quotidien compte, elle réaffirme son engagement dans le dispositif Recigo. Le dispositif Recigo répond à un triple objectif. Réduire l'impact environnemental de l'activité administrative, soutenir l'emploi d'insertion et développer des filières de recyclage en France. L'engagement vertueux induit par le procédé Recigo se décline en plusieurs phases qui ont toutes une finalité commune, la préservation de l'environnement et le soutien à l'activité économique française. Étape 1, un geste responsable au quotidien. Des écobelles, caissettes spéciales en carton où doivent être déposés papier et brouillon, magazines et journaux, post-it, prospectus, enveloppes et cahiers, sont installés dans les services municipaux qui génèrent du déchet papier, ainsi que dans les trois groupes scolaires de la ville. Les agents en vident le contenu dans des bacs spécifiques. Étape 2, la poste intervient. Ces bacs sont relevés par la poste une fois par semaine. Le facteur intégrant ce déplacement dans sa tournée, l'impact en émissions de CO2 supplémentaires est donc quasi nul. Étape 3, des entreprises d'insertion à l'œuvre. Les papiers sont triés par Nouvelle Attitude, société d'insertion ou par d'autres partenaires de l'insertion du handicap. Grâce à cette activité de recyclage, des salariés bénéficient d'un accompagnement personnalisé leur permettant un retour à l'emploi pérenne. Étape 4, un recyclage dans des filières 100% françaises. La Poste confie les papiers à recycler à des papetiers exclusivement situés en France, engagement formalisé par un accord signé avec la COPACEL, Union française des industries des cartons papier et cellulose. Ainsi, en 2020, ce sont 1470 kg de papier qui ont été recyclés. La gestion globale des déchets au sein des services et équipements municipaux est une préoccupation majeure. En 2021 et 2022, de petits bacs de collecte pour les déchets organiques, bacs bleus, et ceux recyclables, bacs jaunes, vont être déployés à l'hôtel de ville, dans les salles de réunion, les équipements sportifs et à l'escale. Sans oublier le traitement du verre. Bon à savoir. La fabrication du papier recyclé est trois fois moins gourmande en eau et en énergie. 160 écobelles sont déployées et réparties entre l'hôtel de ville, le centre de vie sociale André Malraux, la bibliothèque et les trois groupes scolaires. 6 000 €, coût annuel du dispositif pour la ville. Pages 12 et 13. Cadre de vie, métropole, réhabilitation du pont Napoléon, dernière ligne droite. Engagée depuis 2019, la rénovation du pont a repris le 17 mai pour la troisième et dernière phase du chantier. Fin des travaux prévus début septembre. C'est la partie la plus spectaculaire du chantier de rénovation du pont qui se déroule depuis le 17 mai dernier. Les deux premières phases concernaient le changement des garde-corps et des mâts d'éclairage publics, ainsi que le nettoyage et la consolidation des arches. Désormais, la métropole a engagé des travaux de surface ainsi que ceux de rénovation de la trémie inférieure nord qui vont permettre de redonner du lustre au pont de Saint-Cyr. Sur le pont sont notamment prévues la mise à niveau des trottoirs et des pistes cyclables pour faciliter la circulation des modes doux et la reprise de l'ensemble des revêtements. Sur le passage inférieur nord, les travaux comprennent le nettoyage et la réparation des bétons, la réfection de la piste cyclable et le remplacement des garde-corps. Un portique de limitation de gabarit sera également mis en place par sécurité pour les poids lourds. Ces travaux contraignent la circulation puisque l'accès au pont et au passage inférieur côté Saint-Cyr sera totalement interdit dans les deux sens du 5 juillet au 1er septembre 2021, avec report des véhicules sur le pont du périphérique à l'ouest, les ponts Mirabeau et Wilson à l'est. L'accès des piétons et des vélos sera toutefois possible, ainsi que l'accès à l'île Simon. Au total, ce sont 4 millions d'euros qui ont été mobilisés par Tours Métropole Val-de-Loire pour ce chantier d'envergure qui s'inscrit, après le pont Mirabeau, dans un programme plus vaste de surveillance des ouvrages d'art. Au total, ce sont 4 millions d'euros qui auront été mobilisés par Tours Métropole Val-de-Loire pour ce chantier d'envergure qui s'inscrit, après le pont Mirabeau, dans un programme plus vaste de surveillance des ouvrages d'art. 1960, année de construction de l'ouvrage. 450 mètres longueur du pont, 30 000 véhicules par jour, 3 lignes de bus. Une offre de bus plus performante à la rentrée. Fil Bleu adapte son offre de transport. Oubliez les horaires fixes sur tout le secteur ouest de la ville qui ne correspondent jamais aux souhaits des habitants et des collégiens pour rejoindre leurs établissements avec des horaires fixés trop tôt ou trop tard. Dès la fin août, le transport à la demande, TAD, arrive sur Saint-Cyr et va permettre d'optimiser le réseau. Circulant de 7h à 19h du lundi au samedi, un minibus pourra être demandé jusqu'à une demi-heure avant l'horaire souhaité aux arrêts des lignes régulières 18 et C2 qui seront conservés comme point de prise en charge. En vert sur le plan, le minibus emmènera les passagers sur 5 points de connexion prédéterminés. Saint-Cyr-Mairie, Montjoie, Place Guy-Reynaud, Marché Mailloux et Tronchet pour la connexion avec la ligne A du tramway. Jusqu'à 48 courses pourront ainsi être opérées sur la journée, offrant plus de souplesse aux habitants dans leurs déplacements. Une information complète sera diffusée par Keolis, l'opérateur de transport pour le compte de la métropole à la fin août. A noter que les autres lignes régulières, la ligne 14 qui va de la Tranchée au pôle clinique nord en desservant le centre de Saint-Cyr et la Béchellerie, et la ligne 17 qui relie l'hôtel de ville au pôle clinique nord via Tranchée et Saint-Symphorien, ne seront pas modifiées. Marquez son vélo pour le protéger. Vous craignez de stationner votre vélo dans la rue ? Le marquage Bicicode consiste à graver un numéro unique et standardisé sur le cadre de votre vélo, référencé dans un fichier national unique accessible en ligne. Le Bicicode est le seul dispositif reconnu par l'État pour la lutte contre le vol, le recel et la revente illicite de cycles. Il permet la restitution des vélos volés à leurs propriétaires par les services de police ou gendarmerie. Depuis le 1er janvier 2021, ce marquage est obligatoire pour tous les vélos vendus neufs et s'étendra au 1er juillet aux vélos d'occasion vendus par des professionnels. Cependant, si votre vélo est plus ancien, vous avez la possibilité de le faire graver sur rendez-vous auprès de l'accueil Vélo et Rando, 31 boulevard Heurtelot à Tours, du collectif Cycliste 37, impasse Nadeau à Tours, du Vélo 6 Détour de Loire, 37 rue Charles Gilles à Tours. Pour limiter les risques de vol, il est nécessaire d'avoir un bon antivol et de toujours attacher son vélo, en englobant la roue et le cadre. Pages 14 et 15. Cadre de vie, vie économique. Saint-Cyr en plein boom commercial. Depuis le début de l'année, les services municipaux instruisent de très nombreuses demandes d'enseignes, signe que la vocation commerciale de la commune se renforce mois après mois. Nouvelles enseignes pour la zone Équatope. Plusieurs zones commerciales ont été aménagées le long des boulevards Charles de Gaulle et André-Georges Voisin. Elles accueillent de nouvelles enseignes, dont certaines sont nouvelles en Touraine. C'est le cas de la Maison Sunet. Il s'agit d'un commerce original qui vient d'ouvrir ses portes au 238 boulevard Charles de Gaulle, anciennement Kiloutou. Jean-Luc Sunet et ses collaborateurs vous accueillent dans une poissonnerie d'un genre nouveau. Outre y acheter tous les produits de la mer dans une ambiance très marine, vous pourrez déguster sur place plusieurs plats préparés et si vous le souhaitez, prendre des cours de préparation et de cuisson. Le gérant envisage d'organiser également des rencontres avec les mareyeurs avec lesquels il travaille. Une autre ouverture à noter est celle de la Grange des Frangins face au Pôle emploi rue Lavoisier. Simon et Valentin Adamo, deux jeunes entrepreneurs pleins d'enthousiasme, viennent de s'installer et proposent un lieu branché et convivial où il est possible autant de déguster une bière que de manger rapidement. Un nouveau lieu de restauration dans un secteur en manque et avant l'arrivée d'autres enseignes. Optique, cuisiniste et boulangerie, des commerces qui ont le vent en poupe. De 5 magasins, Vision Plus et Optique 2000 dans la galerie marchande Auchan, Général d'Optique sur le pôle commercial situé à l'entrée du centre commercial, et Chris, aux fosses boisées et sur le boulevard André-Georges Voisin, l'offre en opticien passe à 8 points de vente avec plusieurs ouvertures. La plus récente est celle de l'offre au rez-de-chaussée de la maison médicale Madeleine Bray, de rue René et Thérèse Plagnol. Deux autres boutiques sont en projet, Atoll, au centre commercial de l'ex-compagnie des marchés, et un magasin d'optique pour enfants, rue Guy Bahureau. Saint-Cyr accueille désormais 4 cuisinistes. Étaient déjà installés Filou, 179 boulevard Charles de Gaulle, et les cuisines Schmitt, au rond-point de Lattre de Tassigny, sur le boulevard Charles de Gaulle. Ces magasins sont rejoints par Mobelpa le long du boulevard André-Georges Voisin, et prochainement les cuisines Aviva, qui vont s'implanter rue Guy Bayrou. Enfin, chacun aura pu découvrir depuis la fin mai une nouvelle boulangerie à l'enseigne régionale, Ange, présente en de nombreux endroits de la métropole. Avec Feuillette et deux points de vente Marie Blacher, le secteur apparaît désormais bien pourvu aux côtés des boulangers traditionnels de la ville. Deux nouveaux bâtiments sortent de terre, boulevard André-Georges Voisin. À l'arrière de la maison médicale Madeleine Bresse, c'est un bâtiment de 3000 m² de surface de plancher en R+1 dont la construction vient de démarrer. Le promoteur Essie Royer annonce 2000 m² de surface commerciale en rez-de-chaussée et 1000 m² en étage destinés à recevoir des activités médicales et paramédicales. Livraison annoncée en février 2022. De l'autre côté du boulevard, la société A3C engage la construction d'un immeuble de commerce et de bureaux rue Guy Bayrou entre Shiftech et Sunglass Auto. Et le bâtiment fraîchement terminé rue de la Fontaine de Mier. La commercialisation s'est faite rapidement puisqu'à ce jour le promoteur annonce un programme quasi complet. Parole d'élu, Michel Gillot, maire adjoint en charge de l'urbanisme, de l'aménagement urbain et du commerce. Plusieurs petites zones commerciales ont été aménagées. Il y a encore quelques années, Chambray était souvent une destination privilégiée des Saint-Cyriens lorsqu'ils souhaitaient faire leurs courses. Aujourd'hui, tout se trouve aussi au nord, qu'il s'agisse du secteur de la Petite Arche sur Tour Nord ou sur Équatop à Saint-Cyr. Toute l'équipe municipale se joint à moi pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants. Je ne manquerai pas de les rencontrer dans le cadre des tournées de commerce que j'effectue régulièrement pour mieux les connaître et les accompagner dans leur développement. Pages 16 et 17, cadre de vie, vie économique, quand une galerie commerciale s'anime. Avec 26 commerces adhérents, le groupement d'intérêt économique La Choisille a été créé en 2005. L'objectif des 26 est d'unir leur inventivité et leur sens de l'animation afin de rendre vivante et festive la galerie de l'hypermarché Auchan, Saint-Cyr et Quatop. Le GIE La Choisille a été créé il y a 16 ans sous l'impulsion de M. Bridier, alors responsable du magasin Optique 2000. La présidence est aujourd'hui assurée par Frédéric Flu, boulanger réputé des gourmets de Saint-Cyr. Des projets et des animations toute l'année. L'objectif principal de l'association est celui d'animer la galerie commerciale, tout en conservant une indépendance financière et structurelle vis-à-vis d'Auchan. Avec un budget annuel de 60 000 euros, alimenté par la participation financière des 26 commerces, montant calculé au prorata de la surface occupée, soit de 300 euros à 1500 euros tous les 3 mois. Le GIE propose des animations tout au long de l'année. Le bureau se réunit 4 à 6 fois par an et l'ensemble des commerçants se retrouve fin février lors de l'Assemblée Générale. Rose offerte pendant la Saint-Valentin, chasse aux œufs à Pâques, concert pour la fête de la musique, danseurs en déambulation pour le carnaval, défilé de mode, structure gonflable pour les enfants, présence du Père Noël et décoration, tout est pensé pour faire de la galerie commerciale un lieu convivial. Une collaboration constructive avec l'hypermarché. Une ambiance familiale règne au sein du GIE, lequel peut amener ses activités sereinement grâce au soutien d'Auchan, l'implication constructive de son directeur, Sébastien Toulier, y contribuant pour beaucoup. Son arrivée à la direction d'Auchan il y a 5 ans a été très bénéfique pour nous. Monsieur Toulier est à l'écoute et propose souvent des solutions. Une aide précieuse qui se traduit également par une contribution au budget annuel, indique Frédéric Joao, Trésorier. Les 26 commerces qui adhèrent au GIE. Toutes les cellules sont occupées depuis 6 ans. Un marqueur de bonne santé pour la galerie, une des rares à afficher une telle stabilité dans la métropole. 26 commerces, 5224 mètres carrés de surface, 60 000 euros de budget. En colis, bijouterie fantaisie, 02 47 88 05 98. Bijoux-fantaisie-encolis.com. Bel et blanc, pressing, 02 47 41 70 61. Body Minute, Institut de beauté, 02 47 40 84 52, bodyminute.com. Camailleux, prêt-à-porter femme, 02 47 42 50 72, camailleux.fr. Carnaby, prêt-à-porter femme, 02 47 52 12 50, i-carnaby.com. Danobi Press, 02 47 88 99 19. Docteur IT, réparation d'équipements high-tech, 02 47 53 20 19, tour.docteur-it.com. Eric Stipa, salon de coiffure, 02 47 54 31 30, ericstipa.com. Julien Dorcel, bijouterie, 02 47 54 44 87, juliendorcel.com. Jewel Store, e-cigarette, e-liquide, accessoires. 09 81 08 49 83 j-well.fr. Lafarge Maroquinerie, 02 47 49 15 70. Le Bouchon Bar Brasserie, 02 47 51 06 52. Le Quai 37, enseigne vendue, brasserie, 02 47 85 40 14. Les Gourmets de Saint-Cyr, boulangerie, pâtisserie, restauration, 02 47 49 13 40. Les Petits Souliers de Saint-Cyr, cordonnerie multiservice, 02 47 40 73 10. Micromania Jeux Vidéo, 02 47 85 55 64, micromania.fr. Nocibé Parfumerie, 02 47 49 87 97, nocibé.fr. Okaidi, prêt-à-porter enfant, 02 47 88 92 01, okaidi.fr. Optique 2000 Opticien, 02 47 51 63 20, optique2000.com. Pascal Coste, salon de coiffure, 02 47 41 73 52, pascalcoste-shopping.com. Pharmacie Barichard, 02 47 53 55 00. Sergent Major, prêt-à-porter enfant, 02 47 41 44 43, sergent-major.com. Shampoo, salon de coiffure, 02 47 54 04 92, shampoo.fr. Société Générale, banque, 02 47 87 07 57, particulier.sociétégénérale.fr. Tamaris, chaussures pour femmes, 09 67 44 59 98, tamaris.fr. Vision Plus Opticien, 02 47 41 50 54, vision-plus.fr. Page 18, cadre de vie, urbanisme, bientôt un cœur de ville numéro 2 sur 1,5 hectare. La démolition de l'ancienne école Jean Moulin et le lancement de fouilles archéologiques marquent le démarrage de cette opération cœur de ville 2, dont parle l'équipe municipale depuis plusieurs années. En cette fin juin, il ne devrait plus rien subsister des bâtiments de l'ancienne école maternelle Jean Moulin, ouverte à la rentrée 1969. Depuis la construction du nouveau groupe scolaire dans le parc Montjoie, avenue de la République, les jours de ces locaux étaient comptés. En lieu et place de l'école, des maisons qui bordaient autrefois l'avenue de la République, de l'agence bancaire, du bar de l'avenue, soit sur une emprise foncière de plus d'un hectare et demi, s'élèvera dans les 3 ans un nouveau quartier avec des commerces et des logements. Le souhait de la municipalité est de proposer une composition urbaine du même type que ce qui a été réalisé dans les années 2007-2010 au cœur de Ville 1, sur l'ancien stade Jaunet, mais avec des commerces en rez-de-chaussée autour d'une vaste place piétonne et arborée. À l'arrière seront construits des immeubles accueillant uniquement du logement. Un bâtiment prendra place également rue Victor Hugo. Ce nouveau quartier accueillera des activités médicales et paramédicales. Le concours promoteur architecte devrait être lancé en fin d'année. D'ici là, la ville aura acquis le bâtiment du Crédit Mutuel. La délibération a été votée à l'unanimité lors du conseil municipal du 21 mai. La banque a manifesté le souhait de se réimplanter dans des locaux plus fonctionnels dans le futur programme sur 300 m². Le transfert de la brasserie-bar de l'avenue et son PMU, l'immeuble appartient déjà à la commune, est également une priorité pour l'équipe municipale. D'autres commerces du secteur ont déjà manifesté le souhait d'intégrer ce nouvel ensemble commercial. Page 19. Ancienne mairie, l'heure de la réouverture. Débutée le 16 septembre 2019, les travaux de réhabilitation de l'ancienne mairie se sont achevés début juin 2021 et le bâtiment a depuis accueilli ses nouveaux visiteurs. Le bâtiment a été entièrement rénové thermiquement, acoustiquement et ergonomiquement. La façade, la toiture et les menuiseries extérieures ont également été réhabilitées. Outre la rénovation des salles Rabelais, Grand Gouvier, Delatte de Vinière et Seuilly, ce chantier a permis de créer de nouvelles salles de réunion à destination des associations. Enfin, tous les niveaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, avec notamment l'installation d'un ascenseur. Le vendredi 4 juin, la commission de sécurité a effectué une visite du bâtiment, procédure réglementaire incontournable avant l'ouverture d'un établissement recevant du public. L'avis rendu étant favorable, le maire a pris un arrêté d'ouverture au public. Premier visiteur en juin. Fermés au public pendant toute la durée du chantier, les lieux se sont de nouveau animés courant juin à l'occasion des élections départementales et régionales. Les électeurs des bureaux 1 à 4 étaient en effet invités à se rendre salle Rabelais pour voter. Fin juin, ce sont les élèves des écoles de la métropole qui ont investi la salle de spectacle pour les séances scolaires organisées dans le cadre des marionnettes en balade. Les salles municipales seront ouvertes aux associations en septembre. Pour toute réservation ou renseignement, vous pouvez contacter Luc Abreu, en charge de la gestion des salles municipales, au 02 47 42 80 16 ou sur location-salle@saint-cyr-sur-loire.com. Page 20. Urbanisme, circulation douce, le maillage continue. Avec la crise sanitaire, le vélo a pris une part encore plus importante dans nos modes de déplacement quotidiens. Lors du premier déconfinement, la métropole s'est engagée dans un programme de création de bandes transitoires, pérennisées ou non selon leur fonctionnement, sur des grands axes tels que le boulevard Charles de Gaulle, Saint-Cyr, la rue des Tanneurs, Tours, ou le pont d'Arcole, Saint-Avertin. Aux côtés de ces grands axes structurants qui relèvent du schéma intercommunal métropolitain, des travaux sont engagés par la commune sur son territoire afin de faciliter les liaisons interquartiers. La dernière en date relie la rue du Port au nouveau centre commercial et sera d'une grande utilité pour tous les habitants du quartier Périgourd qui souhaitent rejoindre à vélo les commerces du boulevard Charles de Gaulle. Pour finaliser l'ensemble, il restera à aménager les bandes cyclables au niveau du giratoire Georges Clémenceau. Parole d'élu. Michel Gillot, maire adjoint en charge de l'urbanisme, de l'aménagement urbain et du commerce. Au-delà du schéma intercommunal adopté par la métropole, l'équipe municipale poursuit le travail de maillage engagé depuis de nombreuses années qui doit permettre aux habitants de se déplacer sans risque d'un quartier à l'autre. L'ouverture dans la ZAC Charles de Gaulle de la liaison entre le quartier situé à l'ouest des rues du Port et de la Grosse Borne vers les centres commerciaux du boulevard Charles de Gaulle, mais aussi la reprise des pistes du boulevard André-Georges Voisin dans le cadre du programme métropolitain en sont deux belles illustrations. Certes, il reste encore à faire, mais notre volonté est forte, sans tomber dans l'idéologie du tout vélo. Doucement mais sûrement, notre réseau prend forme. Il faut arriver à une coexistence pacifique entre tous les modes de déplacement, tout en prenant en compte ceux émergents, les trottinettes ou planches à roulettes de plus en plus électriques. Page 21. Les travaux en ville. La ville poursuit, en lien avec Tours Métropole Val-de-Loire, ses travaux d'entretien des voiries et des réseaux d'assainissement dans un souci d'amélioration du cadre de vie des Saint-Cyriens. Tour d'horizon des chantiers réalisés ou en cours. 1. Rue de la Moissanderie, rue André-Lebrun, rue Tonnelet. Aménagement afin de réduire la vitesse des véhicules, marquage au sol zone 30, pose de coussins berlinois, pose de panneaux stop au carrefour Messangerie-Lebrun. Réalisé. 2. Avenue des Cèdres, branchement eau pluviale pour canalisation d'une source. Réalisé. 3. Rue du docteur vétérinaire Ramon, branchement d'assainissement, réalisé. 4. Rue de la Chanterie, branchement d'assainissement, réalisé. 5. Rue Jean Moulin, mise en séparatif du réseau d'eau usée et pluviale et renouvellement du réseau d'eau potable, en cours. 6 rue de la Bûcheterie, renouvellement du réseau d'eau usée et d'eau potable, réalisé. 7 rue des Amandiers, enfouissement des réseaux, mise en œuvre de l'éclairage public, en cours. 8 boulevard André-Georges Voisin, poursuite de la création d'une piste cyclable et piéton, en cours. 9 rue de la Chanterie, renouvellement du réseau souterrain électrique, en cours. Page 22-23. Grand angle. Sécurité. Police municipale, action et proximité. Au plus près des citoyens, la police municipale veille au respect de la tranquillité et la sécurité publique au quotidien. Ses agents, au nombre de 5, œuvrent avant tout dans une optique de prévention et interviennent pour l'apaisement des conflits. La police municipale est l'expression des pouvoirs de police du maire. Parfois méconnue et sous-estimée dans l'ampleur de ses missions, elle est pourtant la force de sécurité intérieure la plus proche des habitants. Elle dispose des mêmes champs d'action que ses homologues nationaux, à la différence qu'elle œuvre uniquement sur le territoire communal et qu'elle ne possède pas de pouvoir d'enquête judiciaire. Cependant, elle est autorisée à interpeller l'auteur d'une infraction et à le verbaliser. Compétents en termes de police administrative, les policiers municipaux veillent au maintien du bon ordre en ville, de la sécurité, de la sûreté et de la salubrité publique. Ils sont ainsi régulièrement mobilisés pour des troubles de voisinage, des stationnements gênants, des animaux errants ou encore des dépôts d'ordures sauvages. Nous sommes malheureusement de plus en plus sollicités pour des cas de démarchage frauduleux, confie Jérémy Correas, chef de la police municipale. Les agents sont également compétents en matière de police de la route, contrôle de vitesse, de police des débits boissons, de police de la publicité, etc. 4 policiers évoluent sous la responsabilité de Jérémy Correas, soutenu par un agent administratif. 1969, création de la police municipale. 5 policiers municipaux, 1 agent administratif. Le dialogue, une priorité. Lorsqu'ils ne sont pas en intervention, les policiers municipaux patrouillent. Toujours en binôme, ils sont présents à la sortie des écoles, sur le marché, dans les parcs, avec plusieurs objectifs. Rencontrer les habitants, écouter leurs problématiques, rappeler la réglementation, sensibiliser le plus souvent et parfois verbaliser. Récemment, la ville a fait l'acquisition de 2 scooters afin d'étendre le périmètre de ses patrouilles. Ces nouveaux véhicules permettent d'accéder facilement aux allées et chemins, ainsi qu'aux parcs et squares. Nous cherchons avant tout à être abordables et à mieux connaître la population. Sur le terrain, nous allons à la rencontre de personnes qui ne pousseraient pas forcément la porte de notre poste, explique Karine Ascar, arrivée en début d'année dans l'équipe. Parole d'élu. Faris Boigard, maire adjoint en charge des ressources humaines, de la sécurité publique et des systèmes d'information. Comment définissez-vous la police municipale ? La commune, par l'intermédiaire du maire qui possède les pouvoirs de police, doit protéger les biens et les personnes, veille à la tranquillité publique et à l'ordre, ainsi qu'à la salubrité publique. Par sa proximité, la police municipale est une présence bienveillante et rassurante pour la population qui voit en elle un moyen supplémentaire de dialogue et d'information. La police permet d'avoir une vision de terrain des difficultés rencontrées par les Saint-Cyriennes et les Saint-Cyriens. Depuis 2019, les policiers municipaux participent au GPO. De quoi s'agit-il ? Le travail en réseau avec les autres acteurs du terrain est essentiel. Une fois par mois, la police municipale participe aux réunions du groupe de partenariat opérationnel qui réunit des acteurs et partenaires d'horizons très variés. Police municipale, éducation nationale, préfecture, représentants du procureur de la République, bailleurs sociaux, CCAS, fil bleu, etc. À partir d'un constat sur le terrain, les participants échangent sur une problématique, vol, harcèlement, problème de stupéfiants, afin de proposer une réponse en amont ou en aval de l'action de la police. La sécurité ne doit pas reposer uniquement sur les services de police, c'est l'affaire de tous. L'objectif est de mutualiser les moyens et les informations de chacun pour être plus réactif et efficient sur le terrain. L'équipe s'est étoffée cette année et le sera également en 2022. Qu'est-ce que cela change au quotidien ? En début d'année, Karine Ascar, auparavant en poste à La Riche, a rejoint l'équipe. Un second recrutement est prévu en 2022. En augmentant les effectifs, nous augmenterons le temps de présence des agents sur le terrain. Déjà cet été, la police municipale assurera une présence de 8h à 21h pendant 4 semaines au minimum. Ces recrutements permettent également à l'équipe de se fixer de nouveaux objectifs, comme développer la prévention autour du numérique. Une réflexion est d'ailleurs en cours, en lien avec le service jeunesse-vie scolaire. Page 24. un lien privilégié avec les commerçants. Les agents sont particulièrement présents auprès des commerçants. Lors de leur patrouille, l'une de leurs missions est en effet d'informer les commerçants sur le dispositif Alerte Commerce mis en place par la CCI, en lien avec la police nationale et la gendarmerie. S'il se passe quelque chose dans la métropole, comme des actes de vandalisme, un braquage, les commerçants adhérents sont immédiatement informés par SMS. 120 commerçants saint-cyriens ont déjà adhéré à ce dispositif gratuit, ouvert à tous, explique Karine Ascar. Contrôler la vitesse. Pour garantir la sécurité des saint-cyriens, la police assure également des missions de prévention. Certains aménagements ont permis de maîtriser la vitesse en ville, mais certains axes sont encore sujets à des vitesses trop élevées. Ainsi, la ville compte 5 radars pédagogiques, dont un mobile. L'équipe utilise également un cinémomètre pour procéder à des contrôles inopinés de vitesse. Ces contrôles, même s'ils font l'objet de répression, sont l'occasion de rappeler aux automobilistes les règles de sécurité à adopter. En 2020, 400 contraventions ont été relevées, toute infraction au code de la route confondue. Page 25. Un outil performant, la vidéoprotection. Depuis janvier 2017, la police municipale dispose d'un mini-centre de supervision urbain comprenant 44 caméras de vidéoprotection. Celles-ci ont pour objectif de protéger les bâtiments publics les plus sensibles, les espaces publics très accessibles et les entrées de ville où le trafic routier est dense. Cet outil performant et dissuasif a déjà prouvé son efficacité. 10 nouvelles caméras vont prochainement être installées, dont certaines pour la surveillance des axes majeurs comme le boulevard Charles de Gaulle. Les images ne peuvent être visionnées que dans le cadre d'enquêtes préliminaires de police ou d'enquêtes diligentées par le parquet. Celles-ci sont conservées 12 jours sur un réseau sécurisé et dédiées en mairie, puis automatiquement détruites. Toutes les parties privatives sont floutées. OTV, partez en vacances sereinement. L'opération Tranquillité Vacances est un service gratuit proposé aux Saint-Cyriens qui s'absentent de leur habitation individuelle au moins 2 jours consécutifs. En 2020, 150 maisons ont ainsi fait l'objet de surveillance en période de vacances. Concrètement, les agents assurent au moins un passage tous les 2 jours avec une vérification des ouvertures de la maison et de la boîte aux lettres. Pour bénéficier de ce service, il suffit de vous inscrire en remplissant un formulaire en ligne sur le site web de la ville, puis en le remettant au poste de police au moins 7 jours avant votre absence. Plus d'infos, contactez votre police municipale 02 47 42 80 43 ou sur le site police@saint-cyr-sur-loire.com. Accueil au poste de police du lundi au vendredi de 8h à 17h. À la rencontre des Saint-Cyriens. Rencontre citoyenne. Un café, un policier. 3 fois par an, en dehors du poste de police, les agents proposent des rencontres informelles avec les citoyens autour d'un café. L'occasion d'échanger avec plus de facilité sur les tracas du quotidien, de s'informer sur les dispositifs de prévention ou encore de recueillir des conseils. Journée de sécurité routière. Chaque année, la police municipale propose un contrôle gratuit du réglage des phares des automobiles en lien avec la sécurité routière. Les éclairages des vélos des collégiens sont également contrôlés ponctuellement à proximité des établissements scolaires. 2 nouveaux rendez-vous à l'étude. Journée pour les seniors. Plusieurs ateliers sont envisagés autour de l'automobile, rappel sur le code de la route, mise à niveau sur les nouveaux panneaux, et autour de la sensibilisation au démarchage frauduleux. Le rendez-vous devrait avoir lieu en fin d'année à l'Escale. Prévention numérique dans les établissements scolaires. En lien avec le service jeunesse vie scolaire, l'objectif est de sensibiliser les jeunes aux dangers du web, de leur donner les clés pour une bonne utilisation des réseaux sociaux, etc. Page 26. Proximité. Jeunesse, un service minimum d'accueil assuré. Conformément aux instructions gouvernementales, la ville a mis en place un service d'accueil au profit des enfants dont les parents étaient mobilisés par la gestion de la crise sanitaire entre le 6 et le 23 avril. La souris verte est ainsi restée ouverte pendant cette période grâce à la mobilisation du personnel municipal. Pour les enfants scolarisés en école maternelle et élémentaire, l'accueil était assuré sur le site de l'école Charles Perrault, Roland, Angeran. Les enfants n'étaient pas dépaysés car le personnel municipal déployé pour assurer ce service était celui habituellement en poste dans les écoles et au centre de loisirs. Animateurs, agents spécialisés des écoles maternelles, agents de service et de restauration étaient mobilisés pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions possibles, tout en assurant le respect des procédures et protocoles sanitaires en vigueur. Un peu moins d'une dizaine d'enfants par jour ont été accueillis en petite enfance et une trentaine d'enfants par jour sur le site scolaire. Ajoutons que la municipalité a fait le choix de ne pas facturer ce service aux familles qui en ont bénéficié. Pendant cette période, les agents du service de la petite enfance ont proposé différentes animations et activités aux enfants de maternelle en complément de celles organisées par les animateurs présents. Un vrai partage de compétences au profit des enfants présents. Parole d'élu, Véronique Guiraud, maire adjointe en charge de la petite enfance, des loisirs et vacances. Je tiens à souligner et à remercier pour leur mobilisation et leur investissement tous les professionnels de la petite enfance, personnel municipal et assistants maternels qui ont continué à accueillir les enfants pendant cette période de confinement, rendant ainsi un grand service à leurs parents. Page 27. Pour un socle numérique dans les écoles saint-cyriennes. Dans le cadre du plan de relance de l'économie, le ministère de l'Éducation nationale a lancé un appel à projet national visant à soutenir la généralisation du numérique éducatif pour l'ensemble des écoles élémentaires qui n'ont pas atteint le socle numérique de base. Les projets sont construits conjointement par les collectivités locales concernées et les équipes pédagogiques. Saint-Cyr-sur-Loire a choisi de répondre à cet appel à projet et de solliciter une subvention de l'État à hauteur de 62 690 euros pour un montant de dépenses de 90 380 euros destiné à compléter l'équipement des trois écoles publiques et de l'école Saint-Joseph en classe mobile dotée de PC, portable et tablette. Le dossier est en cours d'instruction par les services de l'État. Parole d'élu. Françoise Bayrault, maire adjointe en charge de l'enseignement et de la vie éducative. L'année scolaire 2021-2022 se prépare déjà avec une ouverture de classe prévue en élémentaire à l'école Angeran. Une bonne nouvelle qui reflète le dynamisme de la ville. Elle est aussi destinée à limiter le nombre d'enfants accueillis dans les classes de grande section CP et CE1 à la rentrée prochaine, conformément aux directives ministérielles. Année 2021-2022, inscription en cours. Les dossiers d'inscription pour l'année scolaire 2021-2022 sont disponibles en ligne sur le portail Famille dans l'onglet Vie scolaire et sur le site internet de la ville. Plus d'infos, saint-cyr-sur-loire.com. jeunesse@saint-cyr-sur-loire.com. 02 47 42 80 66 63. Page 28. Proximité, jeunesse, Inatea et Charlie, deux talents made in Saint-Cyr. La première est lycéenne, la seconde collégienne, toutes deux ont un parcours scolaire saint-cyrien, des premiers apprentissages en école maternelle à la consolidation des connaissances au collège. Deux jeunes filles qui brillent aujourd'hui par leur talent et dont l'avenir est prometteur. Inatea Brun, Miss Tahiti, 15-17 ans. L'aventure des Miss commence en août 2020 pour Inatea, dont la maman est polynésienne. Elle est élue Miss Indre-et-Loire après avoir été repérée par la délégation Tourangelle du comité Miss 15-17 ans et avant d'échouer au concours régional 2 mois plus tard. Mais l'aventure continue. Les restrictions sanitaires empêchant Miss Tahiti 15-17 ans de se rendre en métropole pour participer à la finale nationale, il est proposé à Inatea d'y participer. Elle sera choisie après avoir, en distanciel, passé un test de culture générale, défilé et passé un entretien. Son écharpe officielle lui a été remise en mars dernier dans les salons Ronsard par Françoise Bayrault, maire adjointe chargée de l'enseignement et de la vie éducative, lors d'une cérémonie en petit comité. L'ultime étape, pour elle, fin mai, la finale nationale, toujours en distanciel, qui ne lui permettra pas de monter sur le podium, mais dont elle garde de beaux souvenirs. Ancienne élève de l'école Périgourd, Inatea, 17 ans, étudie aujourd'hui au lycée Descartes et espère pouvoir préparer Sciences Po. C'est également une sportive aguerrie qui pratique la natation synchronisée et maîtrise parfaitement le tamouret, la danse traditionnelle tahitienne. Charlie Georgia Fleurier, un premier roman édité à 11 ans. C'est au cours du confinement du printemps 2020 que l'idée d'écrire a germé dans l'esprit de Charlie. Alors élève en classe de CM2 à l'école Anatole France, elle s'est lancée dans cette folle aventure, forte de la reconnaissance que ses institutrices, mesdames Bettega et Lagaski, lui avaient témoignée. Il lui aura fallu un an pour terminer l'écriture d'un roman de 170 pages qu'elle a intitulé « Maeva et le pays caché », tome 1, un nouveau monde. Un travail de longue haleine qui ne l'a pas découragée puisque les 50 premières pages du tome 2 ont déjà été écrites. Charlie est aujourd'hui en classe de 6e au collège Henri Bergson. C'est une jeune fille curieuse du monde qui l'entoure, imaginative, discrète, animée par de nombreuses autres passions. La BD en fait partie. Elle a d'ailleurs illustré la couverture de son roman. Et puis tout azimut, Charlie aime David Bowie, l'anglais, les films en VO, lit Baudelaire, écoute Eddie de Préto, a lu tous les tomes d'Harry Potter, s'intéresse à la vie de Frida Kahlo, etc. Ses parents, discrets, ont assumé financièrement l'impression de 60 exemplaires. Je suis bluffée par le fait que Charlie soit allé au bout de son projet. Son roman est structuré, on découvre une vraie histoire, une intrigue, des dialogues, une chute, confie avec fierté Véronne, sa maman. Si vous souhaitez échanger avec Charlie Georgia autour de sa passion pour l'écriture, vous pouvez lui écrire à cgf.monroman@free.fr. Page 29. Un budget 2021 ambitieux et maîtrisé. Le budget primitif et les budgets annexes ont été votés par le Conseil municipal le 12 mars dernier. Ils traduisent à nouveau la volonté politique forte de poursuivre le développement harmonieux de la ville tout en maîtrisant la fiscalité et en limitant le recours à l'emprunt. Que financent 100 euros de recettes d'impôts ? Sur 100 euros, 48,70 euros pour les dépenses de personnel, 19,40 euros de dépenses de gestion des services municipaux, 8,70 euros de dépenses d'équipement autofinancés, 8,10 euros de subventions, contributions obligatoires versées, 13,20 euros de remboursement de la dette capitale, 1,80 euros remboursement de la dette et intérêts. 1 141 250 euros d'investissement métropolitain. Depuis 2017, la ville apporte cette somme à la métropole sous forme de fonds de concours pour financer la réalisation des travaux correspondant aux compétences qui lui ont été transférées cette année-là. Voirie, assainissement pluvial, éclairage public, espace vert, soft park restés communaux. Cette année, l'essentiel de l'enveloppe est affecté aux travaux engagés dans le quartier de la mairie avec la création d'un grand parking public ombragé dans la cour de l'ancienne école Anatole France et l'aménagement des abords. Une première phase sera lancée en septembre et sera suivie en 2022 par l'aménagement de la place de la Liberté. TMVL finance aussi en direct les travaux d'aménagement du boulevard Charles de Gaulle avec la création, fin 2021, d'un nouveau giratoire au carrefour formé par les rues Henri Bergson, du docteur Émile Roux et l'allée du commandant Jean Tulasme. Un chantier majeur qui va transformer et sécuriser cette partie du boulevard. Pages 30 et 31. Zoom sur l'investissement en 2021. Parole d'élu. Benjamin Gérard, maire adjoint en charge des finances et de la communication. Quels sont les axes prioritaires de ce budget ? Il faut retenir de ce budget 2021 que nos dépenses de fonctionnement restent parfaitement maîtrisées puisqu'elles sont stables, malgré par exemple la hausse des effectifs de la police municipale. Concernant l'investissement, nos efforts sont maintenus avec près de 6 millions d'euros, avec comme domaine de prédilection le cadre de vie. Tout ceci avec une maîtrise de la dette. C'est donc un budget qui a une vision d'avenir tout en prenant en compte le quotidien des Saint-Cyriennes et des Saint-Cyriens. Les impôts vont-ils augmenter cette année ? Absolument pas. Avec Philippe Briand, nous sommes convaincus que la pression fiscale est déjà très importante sur les Français. Nous sommes résolus à ne pas augmenter les impôts, lesquels n'ont d'ailleurs pas évolué depuis 2009 grâce à une gestion particulièrement vertueuse. La crise sanitaire aura-t-elle un impact sur le budget 2021 ? Forcément, cette crise sanitaire est inédite et nos vies ont été bouleversées, tout comme celles de la commune. Bon nombre d'événements n'ont pas pu avoir lieu, nos recettes ont été moindres et il a fallu nous équiper pour protéger nos populations et nos agents. N'oublions pas que l'ouverture du centre de vaccination à l'école a entraîné des dépenses en personnel, en logistique, etc. Concrètement, le centre de vaccination coûte 1 000 euros par jour. Pour autant, nous sommes particulièrement heureux de proposer ce service qui profite non seulement aux Saint-Cyriens, mais aussi à l'ensemble des habitants des communes environnantes. Sur un total de 26,8 millions d'euros, répartition du budget de fonctionnement. Urbanisme, cadre de vie, 20,9%. Administration générale, élections, cimetière, 20,8%. Emprunt, intérêt plus dépenses imprévues, 13,6%. Bâtiment, 12,7%. Jeunesse, vie scolaire, 10%. Sport, 8,5%. Culture, communication, animation, jumelage, 5,4%. Prévention, sécurité, 3%. Petite enfance, 3%. Solidarité, vie sociale, 1,7%. Action économique, 0,1%. 5,9 millions d'euros sur le budget principal, dont 1,1 million versé à TMVL. Urbanisme et cadre de vie, 1 863 000 euros. Quelques actions. Programme d'espaces verts, y compris aménagement d'aires de jeu. Parc de la Pérodière, aménagement de l'allée des grands hommes. Place Malraux, aménagement de surface. Cimetière Mont-Repos, extension. Église Saint-Julite, illumination de l'édifice. Infrastructure, 200 000 euros. Quelques actions. Groupe scolaire Roland Angeran, Charles Perrault, création d'un parking. Rue de la Mairie, création de cheminement piéton. Manoir de la Tour, création d'un accès PMR. Boulodrome Georges Primo, création d'un parking. Équipement sportif et de loisirs, 125 000 euros. Quelques actions. Cours de tennis La Béchellerie, éclairage des cours 7 et 8. Piscine Ernest Wattel, panneau de régulation. Équipement culturel, 28 000 euros. Quelques actions. Église Saint-Julite, restauration du tableau Saint-Michel. L'art dans la rue, plaque commémorative. Bâtiments communaux, 2 113 000 euros. Quelques actions. Ancienne mairie, réhabilitation, fin de programme. Groupe scolaire Roland Angeran, Charles Perrault et Périgourd, rénovation, crédit d'études. Moyens techniques des services, 430 000 euros. Quelques actions. Programme d'informatisation, matériel mobilier, véhicule. Sécurité publique, 86 500 euros. Quelques actions. Vidéo protection, programme pluriannuel, réseau national d'alerte, reprise des sirènes. Pages 32 à 34. Proximité, solidarité, l'escale, centre de vaccination. Personnel administratif, médecins, infirmiers, bénévoles de la Croix-Rouge, ils sont 30 à travailler quotidiennement au cœur du dispositif de vaccination initié par le gouvernement. Depuis le 6 avril, ils contribuent à ce que près de 7000 personnes soient vaccinées chaque semaine. Saint-Cyrmag vous propose de découvrir les portraits de quelques bénévoles et vaccinés du mois de mai. Le contexte. C'est dès le début du mois de janvier que Philippe Briand, maire, a proposé au service de l'État le site de l'Écale afin de répondre à la volonté du gouvernement d'accélérer la vaccination des populations. La salle a donc ouvert le 6 avril dernier et outre cette mise à disposition gracieuse, la ville apporte un soutien humain, administratif et logistique en lien avec la préfecture, Tours Métropole Val-de-Loire et les personnels de santé. Laetitia Léon, vaccinée, 29 ans, jouait les tours. Vacciner est une évidence pour revivre et voyager. Laetitia s'est inscrite sur Doctolib. Ce 17 mai, elle vient de recevoir sa première injection, tout comme sa maman présente ce jour-là. Avant de quitter l'escale, elle doit obligatoirement patienter 15 minutes dans une zone réservée à cet effet, sous le regard bienveillant des bénévoles de la Croix-Rouge. Ces derniers s'assurent que les patients vont bien et sont en mesure d'intervenir en cas de malaise ou de choc anaphylactique. Laetitia est ravie de la façon dont elle a été accueillie et souligne sa prise en charge rapide et efficace. Page 33. Cyril Velière, chef de centre, 35 ans, sapeur-pompier. Je participe à quelque chose d'unique, c'est une expérience humaine riche. Avant d'être affecté à l'escale, Cyril évoluait aux Halles à Tours. Il occupe le poste de chef de centre de 8h à 20h, en alternance avec son homologue Thierry Chauveau, tout en tenant son astreinte professionnelle. À la tête de chaque centre de vaccination, on trouve un référent technique, le sapeur-pompier, et un référent médical, pour Saint-Cyr, le docteur Sophie Lizet. Les missions de Cyril sont vastes. Fort de son expérience en matière de gestion de crise, il est en mesure de répondre aux problématiques humaines et techniques du site. Aide auprès du personnel de l'accueil, lien avec les médecins, réponses à apporter au public, il est aussi garant des bonnes pratiques et se tient informé des préconisations en matière de politique vaccinale, lesquelles évoluent régulièrement. Il est aussi garant du contrôle qualité du vaccin et veille au respect de la chaîne du froid, de la conservation des vaccins, supervise les commandes, les livraisons. Avec le recul, Cyril a le sentiment de participer à quelque chose d'unique, tant par le dimensionnement du dispositif que par l'implication des bénévoles qui se présentent nombreux. Il souligne le respect qui règne entre les personnels, chacun mesure l'importance de son rôle guidé par une cause commune. Cyril tient à remercier les services municipaux saint-cyriens qui font preuve d'une réactivité sans faille. Béatrice Champion, infirmière coordinatrice, 62 ans. Ma présence à l'escale est un engagement civique. Apporter son aide pour une cause sanitaire majeure n'est pas une première pour Béatrice puisqu'elle a participé, il y a 10 ans, à la campagne de vaccination contre la grippe H1N1. Pour elle, ce fut donc une évidence de s'engager à nouveau. 5 fois par semaine, de 9h à 14h ou de 14h à 19h, elle assure les missions d'infirmière coordinatrice. Un rôle qu'elle occupe par alternance avec deux homologues. Chaque jour, une infirmière référente doit être présente sur site. Certes, Béatrice pique toutes les 2 minutes, mais elle forme et chapeaute également les nouvelles infirmières qui arrivent à l'escale. Une équipe de professionnels motivés dont la gentillesse et l'écoute sont quotidiennement saluées. Le temps passé avec chaque personne est court, mais n'empêche pas un temps de parole, souvent libérateur, surtout lorsqu'on perçoit du stress et de l'inquiétude chez elle. Page 34. Béranger Dassigny, régisseur de l'escale, 43 ans. L'escale est adaptée à ce dispositif, mais j'ai hâte qu'elle retrouve sa vocation initiale. Même si l'utilisation de l'escale n'est pas événementielle, le rôle de Béranger reste celui d'un gestionnaire de salle. Il a participé à l'installation logistique de l'équipement avant son ouverture, en lien avec l'Agence régionale de santé. Au quotidien, il s'assure que les 30 personnels mobilisés auront suffisamment de café, d'eau et veille à la bonne livraison des repas, offerts par la municipalité. Il réapprovisionne les médecins en cartouches d'encre et en papier et s'assure que les quantités de gel hydroalcoolique, de virucides et de sopalin sont suffisantes. Il ouvre et ferme le bâtiment chaque jour et gère l'éclairage. Ce sont des missions qu'il assure en alternance avec son collègue, Renaud Chailloux, tous les 3 jours, de 8h30 à 20h. Béranger indique que l'organisation est aujourd'hui bien rodée, les personnels mobilisés restent motivés et semblent être heureux d'apporter chacun leur pierre à l'édifice. Pour autant, ils conservent l'espoir que l'escale retrouve rapidement sa vocation initiale, celle d'une salle de spectacle qui rayonne dans la métropole. Florence Beauverger-Lasseur, agent d'accueil, 52 ans, en poste à la mairie de Saint-Cyr-sur-Loire. Une formidable organisation saluée par beaucoup de patients. Avec beaucoup d'enthousiasme et sur la base du volontariat, Florence prête main forte au dispositif depuis le jour d'ouverture du site. Installée dans le hall de l'escale, derrière son écran, elle accueille les patients, vérifie qu'ils ont bien rendez-vous et leur remet un questionnaire à remplir dans une zone réservée à cet effet. Florence, comme les autres agents qui aident à la partie administrative, a été formée à Doctolib, alterne entre ce poste informatique et un autre dédié à un premier accueil juste à l'entrée de la salle. Elle peut aussi être celle qui nettoie les tables et oriente les patients vers la zone de vaccination une fois que ces derniers ont rempli leur questionnaire médical. Florence est ravie de cette expérience qui lui permet de travailler avec des collègues d'autres collectivités qu'elle a plaisir de retrouver, tous guidés par un bon esprit d'équipe. De 2 jours de présence par semaine en avril, Florence est passée à une journée en juin, l'activité de son service reprenant avec le déconfinement et la fatigue se faisant aussi ressentir. Mais elle tient à être présente afin de contribuer à ce qui lui semble être le seul moyen de reprendre une vie normale, la vaccination du plus grand nombre. Isabelle Chessé, vaccinée, 53 ans, Tours. Je recommande l'escale pour son organisation fluide et l'accueil agréable. Isabelle patiente après avoir reçu sa seconde injection. Originaire de Tours, la quinquagénaire affiche un calme olympien, ravie d'imaginer que sous 15 jours, elle sera immunisée contre la Covid-19. Un geste nécessaire pour elle dont l'activité professionnelle la met en contact régulier avec le public. Toute la logistique du site a été mise en place avec les services municipaux. Au quotidien, un service coordinateur veille au grain. La direction des relations publiques, de la vie associative et sportive, avec à ses têtes Benjamin Lecoq. Page 35. Solidarité. Plan canicule, faites-vous connaître. Dans le cadre du plan canicule élaboré par les services de l'État depuis 2004, Saint-Cyr-sur-Loire remet en place un dispositif de veille et d'alerte destiné aux personnes âgées de plus de 65 ans et aux personnes adultes présentant un handicap. Ce dispositif prévoit la possibilité pour celles et ceux qui en font la demande d'être inscrits sur la liste communale des personnes susceptibles de se retrouver dans un état de grande fragilité en cas de forte chaleur. En cas d'épisode caniculaire, un contact périodique sera organisé durant l'été afin de s'assurer du bien-être et de la sécurité des personnes inscrites. En cas de difficulté, l'intervention des services sociaux et sanitaires sera favorisée pour l'aide et le soutien à ces personnes à domicile. La demande de recensement peut être faite par la personne elle-même, par son représentant légal ou par un tiers. Les formulaires sont en ligne sur le site web de la ville ou à retirer auprès du centre de vie sociale André Malraux. Contactez votre CCAS 02 47 49 59 00. centresocial@saint-cyr-sur-loire.com. Parole d'élu. Valérie Jabot, maire adjointe en charge de l'action sociale et des solidarités entre les générations. Comme chaque année à l'aube de la période estivale, mes collaboratrices et moi-même mettons en place les mesures nécessaires en cas de canicule. Ainsi, nous serons attentives aux personnes isolées et nous les invitons à s'inscrire par téléphone auprès du centre de vie sociale afin qu'elles puissent être appelées si les conditions météorologiques l'imposent. Le centre de vie sociale est à votre écoute en cas de difficulté et restera ouvert durant tout l'été. Le saviez-vous? Pendant l'épisode de canicule du 6 au 13 août 2020, toutes les personnes inscrites sur le registre des risques exceptionnels ont été appelées chaque jour, y compris le week-end. Ce registre compte aujourd'hui 91 inscrits. Page 36. Proximité, solidarité, portage quand la bibliothèque vient à vous. L'accès à la culture et aux loisirs ne doit pas être entravé en raison de l'âge, de l'impossibilité de se déplacer ou d'un handicap. C'est pourquoi l'équipe de la bibliothèque municipale a mis en place un service de portage de livres à domicile pour les publics empêchés. Après avoir identifié vos goûts lors d'un premier rendez-vous, une bibliothécaire vous rendra visite un jeudi par mois afin de vous présenter une sélection de livres, de revues, de livres audio et de DVD que vous pourrez conserver jusqu'à la visite suivante. Si vous souffrez de troubles de la vision, des ouvrages imprimés en grand caractère sont proposés. Portage s'adresse à vous si vous êtes une personne âgée, non mobile, souffrez d'un handicap ou d'une pathologie vous empêchant de vous déplacer à la bibliothèque. Plus d'infos, 02 47 49 59 10. bibliogesande@saint-cyr-loire.com. La bibliothèque en 2020. 882 lecteurs inscrits, 7990 livres adultes, 6943 livres jeunesse, 223 DVD. Page 37. Vie citoyenne. Incivilité en ville, adoptez les bons comportements. Mégots et masques sur la chaussée, stationnement gênant, nuisances sonores, ces incivilités quotidiennes peuvent nuire à la qualité de vie de chacun. À l'approche de l'été, rappel des réflexes à adopter pour bien vivre ensemble. Propreté de la ville, tous responsables. Afin de maintenir la ville propre, une équipe de 13 agents municipaux œuvre quotidiennement dans la ville. Malheureusement, ils constatent de nombreuses incivilités, en particulier dans les parcs et jardins. Ne jetez pas sur la voie publique vos mégots, masques, restes de pique-nique, etc. Des poubelles et cendriers sont disposés dans toute la commune. Des canisacs sont également mis à disposition des propriétaires de chiens pour ramasser les déjections de leur animal. Les mauvais comportements sont passibles d'une amende de 35 euros. Le civisme de chacun permettra de mieux vivre ensemble et de préserver le cadre de vie privilégié qui fait la réputation de Saint-Cyr dans la métropole. À pied, à vélo ou en voiture, faisons preuve de civisme. En ville, chacun est invité à respecter les limitations de vitesse, en particulier à proximité des écoles, pour des questions de sécurité et de nuisances sonores. Par ailleurs, le stationnement sur les trottoirs ou sur les bornes cyclables est interdit, même pour quelques minutes. Il représente un danger pour le déplacement des piétons, en particulier des personnes à mobilité réduite et des poussettes. Rappelons également que la circulation des vélos est interdite dans les parcs et que les chiens doivent être tenus en laisse sur le domaine public. Bruit, n'oublions pas les voisins. Le bruit constitue l'une des principales causes des troubles de voisinage. La période estivale est propice aux travaux de bricolage et de jardinage. Cependant, certaines activités peuvent générer des nuisances sonores et sont donc réglementées par un arrêté préfectoral. Pour le confort de tous, merci de respecter les horaires suivants. Les jours de semaine, de 8h30 à midi et de 14h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, et les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. En dehors de ces créneaux, chacun se doit de respecter la tranquillité du voisinage. Pages 38 à 40. Proximité, culture, vos rendez-vous culturels. Compte tenu de la situation sanitaire, le programme est susceptible d'être adapté ou annulé. 18 juin au 19 juillet. Exposition Les saisons, l'été. Exposition prêtée par la direction déléguée du livre et de la lecture publique d'Indre-et-Loire. Bibliothèque municipale, entrée libre. 28 juin au 31 août. Exposition Atelier photo. Réalisé par les enfants, accueillis à l'accueil de loisirs du Moulin Neuf. Pavillon de la création. Mardi 29 juin. Théâtre Pardieu, Champ de gare. Compagnie Le Grand Nulle Part. 20h30, salle Rabelais, tarif 20 euros à 7 euros. 2 au 14 juillet, exposition Jean-Louis Levenez, portrait. De 13h à 19h en semaine et de 10h à 19h le week-end, pavillon Charles X, entrée libre. Dimanche 11 juillet, événement. Saint-Cyr prend ses quartiers d'été. Danse, musique, théâtre, rendez-vous le 11 juillet au Carré Vert pour fêter le début de l'été et la reprise de la programmation événementielle. Toute la journée, dès 10h, Carré Vert, gratuit, buvette et restauration sur place. Au programme, Yellow Sun Machine, par les Poussins Phoniques, spectacle musical. Professeur Pécuchet, par le Théâtre de la Fronde. Le Rétro Twist Enguinche, par Beretta Chic, chanson revisitée. Gaiement Chantons, par l'ensemble Jacques Moderne, Joël Suhubiette. Spectacle d'improvisation à la carte, par Service Compris. L'art de réinvestir, par la compagnie Entité, Danse Hip-Hop. La cérémoniale, par la compagnie du coin, concert, interaction. 1er juin au 3 septembre, loisirs, jeux de l'été, voyage et tour du monde. L'équipe de la bibliothèque municipale vous invite à voyager autour du monde au travers d'animations et de grands jeux pour l'été. Escape game numérique autour du voyage, quiz de culture générale tour du monde, défi le tour du monde en 80 jours, 7 étapes pour voyager. Bibliothèque Georges Sand, renseignements 02 47 49 59 10. Mercredi 7 juillet, théâtre, chez Arthur, cabaret du temps retrouvé, par le théâtre de Lente. 21h30, Parc de la Tour, tarif de 15€ à 8€, gratuit pour les moins de 8 ans. Réservation au 02 47 38 64 64. Lundi 12 juillet, théâtre et élevée curteureuse, de Vanessa Ferry et Anne Quinclin. 17e édition du Festival de théâtre en Val-de-Luynes. 21h, Parc de la Tour, à partir de 12 ans, organisé par l'association Val-de-Luynes Événements, billetterie sur théâtre-valdeluynes.com. Jeudi 15 juillet, théâtre, Les Égoïstes Anonymes, de Jérôme de Verdière, 17e édition du Festival de théâtre en Val-de-Luynes, 21h Parc de la Tour, tout public, organisé par l'association Val-de-Luynes Événements, billetterie sur théâtre-valdeluynes.com. 17 au 29 juillet, exposition entre mouvement et immobilité, par Marie Laudrel, peinture, de 14h à 19h en semaine, de 11h à 19h le week-end, pavillon Charles X, entrée libre. Mardi 20 juillet, conte, tapis à histoire, la mer. 10h30, parc de la Pérodière, dès 3 ans, gratuit sur réservation, organisé par la bibliothèque Georges Sand. 23 juillet au 30 août, exposition Hugo Pratt, exposition prêtée par la direction déléguée du livre et de la lecture publique d'Indre-et-Loire. Bibliothèque municipale, entrée libre. 6 au 12 août, exposition hommage, œuvre de Jean-Marie Caoro. Peinture. De 14h à 18h, sauf samedi de 14h à 19h, Manoir de la Tour, entrée libre. 17 au 29 août, exposition Bernard Cellier, peinture et sculpture. De 14h à 19h tous les jours, pavillon Charles X, entrée libre. Vendredi 27 août, cinéma, La Bonne Épouse. Cinéma en plein air, précédé d'une animation musicale par la cantine des scouts, 19h30. 21h30, Carré Vert, entrée libre. Samedi 28 août, atelier, réaliser un carnet de voyage en collage. 10h30 ou 14h30, centre de vie sociale gratuit sur réservation, organisé par la bibliothèque Georges Sand. 31 août au 28 septembre, exposition Peter Fish, pavillon de la création. 1er au 14 septembre, exposition. Exposition collective. Guylaine Paché-Michenot, peinture, Émilie Sansou, tapisserie, Sandrine Lemoule, sculpture et dessin, et Ludovic Paché. Peinture. De 14h30 à 19h en semaine, de 10h à 19h le week-end, pavillon Charles X, entrée libre. Samedi 4 septembre, loisirs, journée d'inscription aux associations. De 10h à 18h, stade Guy Dru. Dimanche 12 septembre, littérature, deuxième vie du livre, bourse du livre d'occasion. De 10h à 18h, manoir de la Tour, entrée libre, organisé par l'association Sentier des Savoirs avec le soutien de la ville. Renseignements 02 47 41 34 28 ou 06 34 75 71 82. 30 juin au 15 septembre, marionnettes. Un été au Castelet de marionnettes. Tout l'été, les mercredis et dimanches, les petits dès 3 ans ont rendez-vous au Castelet de marionnettes. Bonne humeur et fou rire garanti. Première séance le mercredi 30 juin. Mercredi et dimanche, 11h et 16h, Parc de la Tour. 5,50€ dès 3 ans. Réservation, compagnie Marisca Val de Loire au 06 09 26 35 36. www.mariscamarionnette.fr. Compagnie Marisca Val de Loire. 30 juin, 22 août, Robin des Bois. 4 juillet, Le Chaboté. 7 juillet, 21 juillet, Pierre l'Oiseau et le Loup. 14 juillet, 5 septembre, Circoum, Bienvenue au Cirque. 18 juillet, 15 août, La Symphonie des Jouets. 1er août, 29 août, Pinocchio. 4 août, 11 août, Quintessence ou le Livre des Voyages. 25 août, 8 septembre, Grabuge dans le frigo. 12 septembre, 15 septembre, Casse-Noisette. Compagnie Sauf qui peut, 25 juillet, 8 août, Qu'est-ce que c'est que ce cirque ? 28 juillet, Des poules et des hommes. 18 août, Polichinelle immortelle. Réservation possible sur billetterie.saint-cyr-sur-loire.com. Page 41. Focus. Portrait, Françoise Enfroy, une pâtissière hors pair. Saint-Cyrienne de longue date et assistante maternelle à la retraite, Françoise est passionnée de pâtisserie. En mars dernier, la pétillante sexagénaire a présenté un de ses entremets à Cyril Lignac pour l'émission Mon gâteau est le meilleur de France. Portrait. Comment est née cette passion pour la pâtisserie ? D'une façon générale, tout ce qui a trait à la cuisine me passionne. Une amie m'avait d'ailleurs inscrite à l'émission Un dîner presque parfait. J'ai été appelée deux fois, mais j'ai toujours décliné, par peur des caméras et parce que le concept de l'émission ne correspond pas à mes valeurs. Il y a 10 ans, j'ai découvert la pâtisserie et ça ne m'a plus quittée. D'une nature plutôt nerveuse, cette activité me détend et me transporte dans une bulle de bien-être. Pourquoi ne pas en avoir fait votre métier ? Je n'avais pas encore découvert cette passion quand je me suis engagée dans la vie professionnelle. J'ai été assistante maternelle 25 ans à Saint-Cyr, au sein d'un réseau d'assistants très professionnels, soudés et motivés. Les enfants sont ma deuxième passion, ils m'ont tellement apporté. Comment vous êtes-vous retrouvée sur les plateaux de M6 ? Je suis toutes les émissions de Cyril Lignac. Mon gendre m'a inscrite et la production m'a appelée. Pour la présélection, j'ai dû envoyer des vidéos réalisées avec la complicité de mes petites filles. J'ai été sélectionnée comme d'autres participants pour représenter le Grand Ouest, avec un tournage prévu le 4 et 5 mars 2020 à Angers pour une diffusion le 26 avril 2021. À partir de mon compte Instagram, la production a choisi le gâteau que je devais présenter ce jour-là, le Coco Mango. Quel verdict avez-vous reçu ? Quand le jury a prononcé les 4 oui, c'était incroyable. C'est une consécration, une reconnaissance pour mon travail. Pour autant, je n'ai pas continué l'aventure. Elle comporte trop de contraintes en termes de planning, d'engagement financier, de disponibilité, etc. Quels souvenirs gardez-vous ? En une journée, j'ai participé à 9 tournages. L'organisation sur un plateau TV est impressionnante, tout comme le nombre de personnes mobilisées. L'équipe est bienveillante et fait son possible pour nous mettre à l'aise. Quant au jury, très sympathique, il m'a donné énormément de conseils. J'ai pu me prendre en photo avec Cyril Lignac. Quels sont vos projets ? J'ai simplement envie de continuer à vivre ma passion et à la partager avec mes proches. Cuisiner, c'est partager. Plus d'infos, suivez Françoise sur Instagram. @fanfan.mamigâteau. Page 42-43. Focus. Vie économique, bienvenue aux nouveaux acteurs économiques. Alimentation, bar, caviste, restauration. Nicolas Bourron, boulangerie Ange, 266 boulevard Charles de Gaulle, boulangerie, restaurant, café, tel 03 47 63 73 08. Responsable saint-cyr@gmail.com. www.boulangerie-ange.fr. Valentin et Simon Adamo, La Grange des Frangins. Bar à vin, restaurant, parc d'activités Équatop, Clos de la Lande, 54 rue du Mûrier, tel 02 47 52 72 62. lgdf-saint-cyr@icloud.com. Franck Aubin, La Vignerie. Caviste, 268 boulevard Charles de Gaulle, tel 06 67 91 89 60. saint-cyr-sur-loire@lavignerie.fr. www.lavignerie.fr. Jean-Luc Sunet, Maison Sunet, marché aux poissons, traiteur, restaurant de fruits de mer, 238 bis boulevard Charles de Gaulle, tel 07 67 05 69 84. maisonsunet37@gmail.com. Brice Berthelot, Beer or Not to Beer. 266 boulevard Charles de Gaulle, bar à bière, bar à vin. contact@beerornottobeer.fr. www.beerornottobeer.fr. Thibault Moreau, Rose Cornichon, Saladerie, 266-268, boulevard Charles de Gaulle. Artisanat, Myriam Adjab, l'atelier de Jeanne. Création florale, livraison à domicile, 26 rue Henri Bergson, tel 06-26-80-26-43. jeanne.benichon@gmail.com. L'atelier de Jeanne est présent dans la galerie du centre commercial Auchan Saint-Cyr, Équatop, les vendredis et samedis, dimanches de fête selon autorisation. Santé. Aude Alcarez, psychologue du travail, particulier et professionnel, 90 rue du Portillon, tel 06-81-33-32-43. aapsychologue@gmail.com. Anne-Marie Hamelman et Mike Bertilli, Studio Santé, coordination des soins ville-hôpital. Suite de soins, spécialiste de la cicatrisation, 1 allée Louis-Yannick, Bayargeau, tel 02-47-36-04-03. mbertilli@studiosanté37.fr www.studiosanté.fr www.suitedesoins.fr. Service, Lannick Chenu, APEF, Saint-Cyr, Tournord. Agence de service d'aide à domicile, parc d'activité Équatop, Clos de la Lande, centre d'affaires Équatop, 59 bis, rue du Mûrier, tel 02-47-72-17-27, saint-cyr-tournord@apef.fr. Laurent Bonisseau, Bureau Green, service de domiciliation commerciale, 2 rue de la Moissanderie, tel 02-55-02-47-83, contact@bureaugreen.fr, www.bureaugreen.fr. Natacha Loprette, chez Mamicha, pension pour chat, vente de produits animaliers, 47 rue François Rabelais, tel 06-06-51-17-59, chez mamicha@gmail.com, site.google.com/view/chez-mamicha. Christophe Savaton, CID, Construction Idéale Demeure, construction immobilière, 2 rue Thérèse et René Plagnol, tel 02-47-55-88-12. infocide@site-tour.fr www.construction-idéal-demeure.fr. Aurélie Bonin, Coiffe & Co, 266 boulevard Charles de Gaulle, 02-47-51-33-47. saint-cyr-sur-loire-charles-de-gaulle@coiffeandco.com www.coiffeandco.com. Fabien Saugère, Germe, réseau apprenant à destination des managers et chefs d'entreprise. 105 rue Jacques-Louis Blot, tel 06-65-35-15-75. fabiensaugère@gmail.com, www.germe.com. André Dubovic, Quintessence, gestion de patrimoine, parc d'activité Équatop, Clos de la Lande, centre d'affaires Équatop, 59 bis rue du Mûrier, tel 02-42-06-06-85. alexia-boulien@groupe-quintessence.fr www.groupe-quintessence.fr. Olivier Debien, 37 soudeurs. Travaux de soudure, fabrication et réparation, 19 rue Auguste Renoir, tel 06-51-37-30-66. 37soudeurs@gmail.com. Déménagement. Blodine Chauvet et Pascal Héron, orthophonistes, ont déménagé au 57 boulevard Charles de Gaulle, tel 02-47-56-54-20. Sunglass Auto a déménagé au 1er rue Guy Bayrou, tel 02-47-41-49-72. Shiftech a déménagé au 1 rue Guy Bayrou, tel 02-46-65-00-90. Page 44, du changement au sein du conseil municipal. Christian Gérard, conseiller municipal, est décédé le 14 avril dernier. En cas de poste vacant et comme le prévoit le code électoral, il a été proposé au dernier élu de la liste Saint-Cyr, Notre Cœur, Notre Force, de le remplacer. Céline Evan Thieblemont a ainsi pris ses fonctions de conseillère municipale le 21 mai dernier. Hommage à Christian Gérard. Christian Gérard était un tout jeune élu puisqu'il figurait sur la liste que j'ai eu l'honneur de conduire lors du scrutin municipal de 2020. Il n'aura disposé que de peu de temps pour se familiariser avec cette fonction dont il rêvait. Une maladie cruelle l'a très vite éloigné de l'équipe et il nous a quittés le 14 avril dernier. Avec ses filles, à sa famille, j'ai témoigné l'affection que nous lui portions lors du conseil municipal du 19 avril en soulignant ses grandes qualités humaines et son dévouement à la chose publique. Christian Gérard avait 68 ans. Philippe Briand, maire. Bienvenue à Céline Evan Thieblemont. L'article 270 du Code électoral dispose que le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste, dont le siège devient vacant, pour quelque raison que ce soit. Ainsi, après avoir accepté d'occuper le mandat de conseillère municipale, Céline Evan-Thieblemont, 30e membre de la liste Saint-Cyr, Notre Cœur, Notre Force, a été installée lors du conseil municipal du 21 mai dernier. Âgée de 44 ans, la collaboratrice au sein d'un cabinet d'architectes confie « Je suis très honorée d'occuper ce poste de conseillère municipale, même si j'aurais aimé que cela se produise dans d'autres circonstances. » Page 45. Regard d'élu. Plus que jamais aux côtés de nos policiers. Saint-Cyr-sur-Loire a la réputation d'être une ville paisible, une ville comme on a l'habitude de dire, où il fait bon vivre. Pour autant, nous sommes parfaitement conscients de la nécessité de rester particulièrement vigilants pour que cette quiétude puisse perdurer et que les Saint-Cyriennes et les Saint-Cyriens conservent la douceur de vivre qu'ils sont en droit d'attendre. Pour toutes ces raisons, la ville s'est engagée depuis plusieurs mois pour plus de sécurité. Vous l'avez sans doute lu dans le dossier de ce numéro du magazine municipal, les effectifs de la police municipale se sont étoffés. Non seulement cette hausse permet plus de présence sur le terrain, mais elle offre aussi une plus grande amplitude d'horaire de nos policiers. Une présence aujourd'hui indispensable face au désengagement de l'État en matière de sécurité. Oui, l'État se désengage sur le dossier de la sécurité des Françaises et des Français. Force est de constater que le maillage du territoire est de plus en plus difficile à assurer pour les forces de l'ordre. Pour autant, même si notre volonté n'est pas de nous substituer au service de l'État dans ses compétences régaliennes, nous avons le devoir de prendre en compte le besoin de sécurité de nos populations. Sachez qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Nous sommes résolument pour l'affirmation de l'autorité des pouvoirs publics pour que jamais notre territoire ne soit délaissé. Nous réaffirmons ici notre soutien indéfectible aux policiers et aux gendarmes qui, ces derniers mois, ont vécu des moments particulièrement difficiles et douloureux. Nos forces de l'ordre méritent plus que jamais soutien, reconnaissance et moyens pour accomplir comme il se doit leur mission. La ville de Saint-Cyr-sur-Loire poursuivra sa politique pour plus de sécurité, notamment en lien avec la police nationale. C'est la conjugaison de toutes les énergies et de toutes les forces sur le terrain qui permettra de conserver cette douceur de vivre et fera reculer la délinquance. Notre politique s'est traduite ces derniers mois non seulement par des effectifs en hausse, mais également par l'acquisition de matériel moderne adapté aux missions d'aujourd'hui. L'achat de scooters ou encore de caméras piétons individuelles permettront à nos policiers municipaux d'être toujours plus proches de nos préoccupations et de remplir leur mission avec réactivité et toujours avec le même professionnalisme. Les élus de la liste Saint-Cyr, Notre Cœur, Notre Force. Vivre ensemble. Avec la hausse des prix de l'immobilier et le vieillissement, la diversité sociologique s'est véritablement réduite à Saint-Cyr. Alors que la part des jeunes chutait fortement, celle des professions intellectuelles grimpait en flèche. S'il est vrai qu'ont toujours existé des quartiers bourgeois et d'autres populaires, les habitants n'ont plus vocation à se croiser et se côtoyer. Disposant sur un territoire réduit à la fois de logements, commerces, lieux de travail, espaces culturels et loisirs, les catégories sociales supérieures et les retraités vivent de plus en plus en autarcie. Nous pouvons tous parfaitement vivre en vase clos sur une commune, mais nous risquons de perdre le contact avec le reste de la société et notamment avec les catégories les plus précaires. Nous aurons de plus en plus de mal à appréhender la réalité concrète du pays et l'aide que nous avons l'habitude d'apporter, loin de chez nous, n'y changera rien. Partageant les mêmes orientations sur les sujets essentiels, les catégories favorisées sont de plus en plus éloignées des réalités sociales et des attentes des classes populaires et des jeunes. La réaction du « pas chez nous » électoralement payante ne règle en rien les problèmes. C'est vrai pour les SDF, les Roms, les HLM, les déchets, les rocades et les nuisances en tout genre. Elles impliquent obligatoirement un « chez les autres » inacceptable. Le sentiment de responsabilité à l'égard de la société qui incombe aux politiques ne doit pas disparaître. Les élus de la liste Saint-Cyr plurielle. La santé de proximité au cœur de Saint-Cyr. La population de notre commune vieillit. Le nombre de nos aînés dans la tranche d'âge de 60 ans à 74 ans a augmenté en 10 ans de près de 39%. L'augmentation de l'âge réduit fortement la mobilité. Parallèlement, de nombreux médecins sont partis en retraite, ils n'ont pas été remplacés. D'autres ont quitté le centre-ville pour s'installer en périphérie de notre commune. La désertification médicale de proximité n'a fait que s'amplifier. La médecine de ville doit revenir dans le centre de Saint-Cyr. Je réitère mon appel pour la création d'un centre médical pluridisciplinaire, notamment dans le futur projet du Cœur de Ville 2. Je sais pouvoir être entendu, mon inquiétude étant partagée par un très grand nombre. Un regroupement médical permet de fournir un service de proximité indispensable à nos aînés. Il donne la possibilité aux médecins de réduire considérablement leur charge administrative, leur permettant de se consacrer à leur métier. Thierry Davot, élu de la liste En avant Saint-Cyr. Page 46-47. En images. Après trois reports, le récit musical Le fabuleux voyage de Pantagruel a enfin pu être organisé le 6 juin dernier. Depuis la mi-juin, un petit nouveau est arrivé à la mini-ferme, Moka, un cochon vietnamien âgé d'environ 2 ans. Philippe Briand a découvert le 7 mai les deux scooters flambant neufs de la police municipale. Quatre bestioles sont à découvrir en ville cet été. Elles ont été entièrement réalisées par les agents des parcs et jardins. Le samedi 15 mai, l'équipe administrative au centre de vaccination était composée à 100% d'agents saint-cyriens. Le 9 juin a sonné la réouverture tant attendue de la piscine municipale Ernest Wattel. Le jour d'ouverture du centre de vaccination, Monsieur le maire a salué les équipes mobilisées en compagnie de Madame la préfète et du président de la métropole. Les agents du service des parcs et jardins ont créé les massifs d'été en juin dernier. 5 700 végétaux ont été plantés. Le 17 mai, des élèves de l'école Anatole France ont testé la maîtrise de leurs deux roues dans le parc de la Pérodière. Magazine édité par la ville de Saint-Cyr-sur-Loire, commune de Tours, métropole Val-de-Loire. Magazine édité par la ville de Saint-Cyr-sur-Loire, commune de Tours, métropole Val-de-Loire. Numéro ISSN 24 95 87 00. Directeur de la publication, Philippe Briand. Rédacteur en chef, Benjamin Girard. Rédacteurs François Lemoine, Hélène Charles, Mélanie Merlot et Pierre Lardet. Crédit photo, service communication, sauf mention spéciale. Portrait du conseil municipal, David Darrault. Police municipale, Caroline Gache. Conception et mise en page, Audaciosa. Impression, imprimerie Chauveau. Tirage, 10 000 exemplaires. Contact, communication, @saint-cyr-sur-loire.com. Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement.